Il y a plein de mystères au Lambert Café ce matin. Il y a des papillons. Je m'en vais à Paris. Bonjour Corinne Investiani.
Bonjour Justine.
Je ne sais pas de quoi tu vas nous parler. Tu es intrigante.
J'ai envie de vous parler de Paris.
D'accord.
Est-ce que tu es déjà allée à Paris?
Non, je ne suis pas allée à Paris.
Bien, en fait, plus particulièrement du Marais. Okay. Le Marais, c'est un quartier historique. Mm-hmm. Avant d'être un quartier administratif, c'est d'abord et avant tout un quartier historique où a résidé autrefois la noblesse dans l'enceinte fortifiée de Charles V. On se transporte dans une autre époque. Puis à partir du 13e siècle, le quartier est progressivement délaissé. C'est mm-hmm. ce qui se produit. Mm-hmm. Puis la Révolution française, ben, elle vient donner un dernier coup pour chasser les proprios fortunés du secteur. Ensuite, c'était occupé par des artisans, par des ouvriers. Puis Paris investit dans plusieurs quartiers, mais délaisse les Marais dans le 19e siècle. Plusieurs immeubles sont incendiés, progressivement détruits. La maladie s'y installe. Puis dans la première moitié du 20e siècle, la question de la destruction d'îlots insalubres fait un grand débat dans Paris. Alors,
y aurait-il un lien?
Je te laisse le faire, ma chère Jocelyne, okay. Parce que cette conversation-là de démolition a été encouragée à l'époque par des argumentaires d'hygiénistes, d'architectes modernes, de spéculateurs. On peut très bien se remettre peut-être dans l'esprit de l'époque. Puis, dans la seconde partie du siècle, on voit au contraire le quartier du Marais fleurir. C'est un des quartiers les plus fréquentés de Paris à l'heure où on se parle. Mais que s'est-il passé? En fait, André Malraux, ministre d'État chargé des affaires culturelles, a fait du Marais le premier secteur sauvegardé de Paris, régi par un plan de mise en valeur dans les années 60. D'ailleurs, lors de mon dernier passage à Paris, j'ai fait un détour pour amener le livre sur l'histoire du Marais, Le Marais en héritage, 50 ans de sauvegarde depuis la loi Malraux. Sur la quatrième de couverture, on y lit « La sauvegarde du Marais, initiée par André Malraux au début des années 60, a laissé en héritage un quartier formidable, au pouvoir d'attraction magnifique. Si environ 50 000 personnes y habitent, 200 000 personnes viennent y travailler chaque jour et plusieurs dizaines de millions de touristes le visitent chaque année. » C'est sûr qu'on parle d'une proportion parisienne. On se comprend bien, ma chère Jocelyne. Mm-hmm. Mais c'était un coup de barre complètement, je vais utiliser le mot révolutionnaire, je
D'accord.
pense. Ce qui est malheureux, c'est qu'on entend... la loi Malraux a été débattue en chambre longtemps et il y a peu d'enregistrements, les discours n'existent pas. On a seulement quelques pistes de chroniques radiophoniques de l'époque par rapport au discours d'André Malraux où il dit souvent « En architecture, un chef-d'œuvre isolé risque d'être un chef-d'œuvre mort. » Ou encore « Les quais sont les décors privilégiés d'un rêve que Paris dispensa au monde et nous voulons protéger ces décors à l'égal de nos monuments. » Moins souvent citées, les deux phrases suivantes vont ressortir souvent. « Sauvegarder un quartier ancien, c'est à la fois en préserver l'extérieur et en moderniser l'intérieur et pas nécessairement au bénéfice du luxe. » tout en transformant les aménagements internes des édifices de façon à rendre l'habitat moderne et confortable. Et une autre citation très intéressante, c'est « Dans notre civilisation, l'avenir ne s'oppose pas au passé, il le ressuscite. » C'est un document tellement magnifique où on entend aussi des gens qui y résident. Il y a des citations de toutes sortes à l'intérieur. On explique les débats. Puis d'ailleurs, on dit que avant la mise en valeur, le quartier paraissait triste. Malraux, par une loi, a sauvé le Marais. En même temps, vous savez, quand on vit au quotidien dans un lieu, on le voit évoluer sans forcément s'en rendre compte. « Je n'ai pas vraiment vu le Marais renaître, » dit une citoyenne, « mais j'avais bien vu disparaître les objets, les ornements, les uns après les autres. »
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a tellement de charme, de valeur?
Il est habité. On a investi, en fait, c'est un geste du gouvernement, parce que le rôle du gouvernement est central dans une telle situation. Et oui, je fais un parallèle avec notre centre-ville, oui. Notre vieux Sorel. Et ce matin, j'ai...
Tu souhaites qu'on s'en inspire?
Je souhaite qu'on s'inspire, oui, de la loi Malraux, même si c'est à l'autre bout oui. du monde. Puis j'en appelle ce matin à mon député provincial. Après réflexion, après avoir vécu... ma première chronique avec toi, Jocelyne, parlait d'un incendie. Je sais pas si tu te souviens, en janvier, j'en ai eu un tout près de chez moi.
Oui.
On en a vécu un cette semaine. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Beaucoup de gens sont tristes, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie d'en appeler à mon député parce que présentement, on est sur le point de citer le paysage de Rivière-Ouel comme étant un paysage naturel incroyable. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre vieux Sorel? Est-ce que notre député provincial, qui est ancien attaché de l'actuel ministre de la Culture, qui sur toutes les antennes déplore comment on malmène notre patrimoine québécois, ici, on a le patrimoine québécois peut-être un des plus importants dans notre vieux Sorel. Depuis le début de mes chroniques, je vous ai parlé que le carré royal appartient toujours à Sa Majesté la Reine. Je vous ai parlé de la maison de Wilfred Nelson. On a la première église anglicane au Canada, la première banque Molson au Canada, la maison de Louis Marcoux. Je pense aussi à l'ancien édifice Cyril Labelle, dont le ventre de bœuf pèse sur son propriétaire. Les logements, j'aimerais faire aussi un relevé de tout ce qui est inoccupé, parce que, bon, j'y habite depuis toujours. J'y suis propriétaire depuis plus de 15 ans et je ne l'ai jamais vu aussi inoccupé.
Et triste.
Et triste et noir le soir, surtout depuis jeudi dernier. Et je me dis, est-ce que c'est le moment justement de donner un coup de barre, de le voir dans son point de vue d'ensemble, de penser au seul pont ouvrant au Québec et notre pont Turcotte, de penser à nos quais qui sont un peu comme ceux de la Seine, mm-hmm. toutes proportions mm-hmm. gardées, et de se dire, on en fait un lieu qui rayonne pour ceux qui y habitent, avec des logements confortables. C'est important. Il y a beaucoup de logements délaissés en ce moment. Je veux pas jeter le blâme à personne, mais je pense qu'il nous faut un André Malraux, il nous faut une loi où on le voit d'ensemble, il faut un grand chantier, il faut pas laisser les gens seuls face à la situation, mais se relever les manches. Les gens désertent le centre-ville, c'est JSO aussi, Jocelyne. C'est ma dernière chronique ici, sur la rue Roy, aujourd'hui. Puis je me dis, moi, je vais continuer à l'habiter. J'espère que j'aurai de nouveaux voisins. Et je repars avec l'horloge de la radio en me disant que le temps, faut pas qu'il s'arrête, faut qu'il avance de bonne façon.
Et sur ton horloge...
Oui, ça, c'est un pur hasard. Jean me l'a remis en rentrant ce matin sur mon horloge au son de midi. Bien, c'est écrit Paris. Alors, voilà, que Sorel s'inspire de Paris.
Merci, Karina. L'entrevue sera sur le site de CJSO, sur le Facebook de CJSO. Moi, j'invite les gens à la réécouter et à la partager aussi. Merci, Karina.
Merci, Jocelyne.